France Culture.
France Culture, question du soir. Astrid de Villaine.
Au siècle des émotions, la colère a toute sa place. De l'attaque du Capitole à Washington le 6 janvier 2021, aux mobilisations françaises contre la réforme des retraites, les gilets jaunes et bloquons tout, jusqu'à la colère saine de Ségolène Royal en 2007, ou son utilisation par Marine Le Pen en politique, elle semble avoir envahi nos espaces, saturés de vidéos courtes et de tweets qui montent en épingle nos émotions. Mais est-ce vraiment nouveau? Les passions sont-elles bonnes ou mauvaises conseillères en politique? Les raisons de la colère sont-elles identifiées et justifiées? Et jusqu'où, si elle doit s'arrêter, la colère peut aller? Bref, la colère est-elle une menace pour la démocratie? C'est le thème de ce débat. Bonsoir à tous les trois. Serge Tisseron, vous êtes psychiatre, docteur en psychologie. Vous avez publié le 1er octobre dernier « La colère et le chagrin, d'une émotion intime à sa mobilisation sociale » chez Albin Michel. Merci d'être là. Eva Illouz, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, sociologue, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez publié en mai dernier « Explosive modernité » chez Gallimard. Et je cite également cet entretien avec Elena Scapaticci, « La civilisation des émotions au seuil ». Et j'accueille Éric Lablanche, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là, essayiste, journaliste, conférencier. Vous avez publié en septembre dernier « Osons la colère », éloge d'une émotion interdite par tant de crises écologiques. C'était chez Actes Sud.
Qu'est-ce qui vous met le plus en colère aujourd'hui?
De tout donner et de ne rien avoir en retour.
Il y a des colères qui sont parfaitement saines, parce qu'elles correspondent à
Madame
la souffrance
Royal.
Des gens.
Je suis très en colère, contre la réforme voulue par ce gouvernement.
J'ai été à la table de ce débat, l'expression de la colère de cette majorité silencieuse.
Les colères sont différentes. Certaines personnes qui sont en colère ne sont pas d'accord avec la colère du voisin.
Une colère a éclaté qui venait de loin.
Nous venons d'entendre dans un montage Ségolène Royal, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, des gilets jaunes et des manifestants contre la réforme des retraites sur une musique de Astéréotypie, colère, dans l'album Énergie positive des dieux, montage de Léa Racine avec Juliette Mouelig. Serge Tisseron, j'aimerais commencer avec vous. Est-ce que la colère est l'apanage de notre époque, comme on vient de l'entendre dans ce petit montage, ou ce serait bien trop résumé pour débuter cet échange?
Oui, la colère est une émotion humaine, donc elle a accompagné l'homme tout au long de son évolution. Qu'on pense à la Révolution française, quand même, certains textes qui sont des textes de rage, et donc nous ne l'avons pas inventé. Mais ce qui m'impressionne, moi, dans la colère, c'est que chacun proteste en ayant l'impression d'être victime d'une injustice, ou que d'autres sont victimes d'une injustice, mais ça suffit pas. La colère, elle est virale, c'est-à-dire que très vite, il y en a d'autres qui s'agrègent à la colère des premiers, et même s'ils savent moyennement de quoi ils sont en colère, ils font groupe. Donc, vous voyez aussi une logique d'affiliation dans la colère. C'est-à-dire quand la colère monte, très souvent, elle devient collective.
Eva Illouz.
Alors, évidemment, je rejoins ce que Serge Tisseron vient de dire. La colère est très présente, par exemple, dans l'Iliade. C'est ce qui caractérise le héros Achille. Et le stoïcisme, la philosophie stoïque, avait pris pour objet presque essentiel la colère. Il fallait qu'on se détache de ses émotions et notamment de la colère. Donc c'est dire que la colère est un problème pour les philosophes depuis déjà longtemps. Alors, pour revenir à votre question, est-ce qu'il y a quelque chose dans notre époque qui fait que la colère est plus présente? Je pense que oui, même si, effectivement, la colère a toujours été présente. D'abord, je crois que nous vivons dans une époque où on nous enjoint d'exprimer nos émotions. Toutes nos émotions et surtout, je dirais, celle de la colère. Le mouvement féministe, en tout cas une bonne partie du mouvement féministe, demande d'utiliser la colère, exige d'utiliser la colère pour affirmer l'égalité entre les hommes et les femmes. Deuxièmement, je dirais que l'idéal de la justice devient plus fort dans nos sociétés. Et cet idéal de la justice, c'est ce qui fait que la colère augmente aussi, parce que la colère, c'est la réaction à la perception qu'un ordre moral n'a pas été respecté. Troisièmement, je dirais aussi que la reconnaissance de des personnes est devenue très importante. Alors la reconnaissance est quelque chose de très vague et de très intangible. Si vous ne me regardez pas comme je voudrais que vous me regardiez, par exemple, qu'il y ait quelque chose de vague et d'intangible, ça suffit, ça pourrait suffire en principe pour générer ma colère. Or la reconnaissance est devenue extrêmement importante. Et puis les deux dernières choses que je dirais qui sont aussi très importantes, c'est que les experts en communication politique aujourd'hui contrôlent toute l'arène politique, ils savent canaliser très bien le mécontentement en faisant jouer la colère aux leaders politiques. Et la dernière dimension, c'est que les réseaux sociaux créent une sorte d'horizontalité de la colère qui permet aux citoyens de communiquer entre eux leur colère.
Vous dites même, Eva Illouz, que ces réseaux sociaux nous éloignent de l'héritage stoïcien.
Oh oui, nous. Oui.
Votre avis là-dessus, Éric Lablanche.
Moi, je rejoins Serge et je rejoins Eva. Alors, est-ce qu'il y a plus de colère aujourd'hui ? J'ai envie de dire oui, dans la mesure, d'abord, où cette colère ne semble pas trouver d'issue. Et elle ne semble pas trouver sa propre résolution, car il faut se rappeler que la colère est une émotion qui vise d'une certaine façon à se résoudre elle-même, c'est-à-dire à supprimer les causes qui l'ont entraînée. Et aujourd'hui, il semblerait qu'un certain nombre de colères qui, peut-être auparavant, étaient canalisées, étaient parfois tues, et parfois détourné, aujourd'hui ne semble pas trouver d'issue. Je voulais pas dire d'exutoire, parce que trouver un exutoire à la colère, c'est la condamner à ne pas se résoudre non plus. Le but de la colère, c'est vraiment de détruire les causes qui l'ont entraîné. Et effectivement, je rejoins aussi Eva sur le fait que les réseaux sociaux et les politiques sont des activateurs de colère pour des raisons électorales, pour des raisons politiques, ou, dans le cas des réseaux sociaux, pour des raisons commerciales. Oui.
Est-ce qu'il est difficile, Serge Tisseron, mais la question vaut bien sûr pour tout le monde, d'identifier les causes des colères ?
Oui, les gens qui sont en colère, en général, finissent toujours par savoir pourquoi. Après, est-ce que la cause qu'ils mettent en avant est la cause véritable ? Vous savez, c'est bien les employés qui sont malmenés à leur travail, voire harcelés, qui ont de la colère contre leur patron, contre un collègue qui leur rend la vie impossible. Ils ne peuvent rien en dire, ils rentrent chez eux, ils accusent leur femme, leurs enfants ou leur mari, si c'est la femme qui harcèle au travail, de lui empoisonner la vie, de pas le comprendre, de ne pas le reconnaître, etc. Donc, la colère se trouve toujours une cause. Ça, c'est certain. Après, la cause qui est mise en avant n'est pas forcément la cause réelle. Alors, en plus, il faut comprendre qu'il y a des colères qui sont une défense de sa propre dignité. On lutte contre des injustices dont on se sent victime, mais aussi on peut lutter contre des injustices contre on sent d'autres victimes. Ça, c'est un type de colère. Mais il y a un autre type de colère dans lequel on se sent victime d'injustice et on agresse une catégorie d'individus qui nous semble prendre une place qui devrait être la nôtre ou en tout cas bénéficier de droits qui devraient être les nôtres. Donc il y a ce que j'appelle des colères inclusives, hein, qui font cause commune avec les injustices dont tout le monde peut souffrir, et il y a des colères excluantes qui font évidemment les choux gras des partis populistes, et les partis populistes font tout pour transformer ces colères inclusives en colères excluantes, parce qu'ils ne peuvent pas satisfaire les demandes populaires, alors ils essayent de répondre comme ça.
Eva Illouz ?
Oui, alors je vais rejoindre ce que Serge Tisseron a dit. Si on prend un exemple des émeutes qui ont eu lieu en 2013 aux États-Unis et qui ont donné naissance au mouvement qui s'appelle Black Lives Matter. On sait pourquoi elles ont eu lieu. Elles ont eu lieu parce que George Zimmerman, un policier, avait été relaxé pour son meurtre de Martin. C'était bien avant. C'était un petit jeune. Alors, dans ce cas-là, je dirais que la question de la cause, elle est double. Il y a la cause immédiate, qui était la relaxation de Zimmerman, mais il y a aussi la profondeur historique qui précède. C'est-à-dire, il y a l'histoire répétée des morts de Noirs aux mains des policiers. Donc il y a deux niveaux de causalité. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, et encore une fois, je rejoins entièrement ce que Serge Tisseron vient de dire, il y a le phénomène du bouc émissaire. Dans le phénomène du bouc émissaire, c'est l'inverse qui se passe. On projette sur quelqu'un d'autre, sur un autre groupe en général, notre propre colère qui est provoquée par autre chose. Comme par exemple, les classes ouvrières américaines projettent sur les latinos, les immigrants, etc., leur colère. Ils ne font que projeter sur un autre groupe leur frustration sans véritablement articuler la source de leur frustration.
Éric Lablanche, vous, pourtant, vous faites cet éloge de la colère dans ce dernier livre, Osons la colère, éloge d'une émotion interdite. Alors que, d'après le début de notre conversation, on a l'impression qu'elle est plus que permise, la colère, dans cette société.
Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le fait que la colère soit considérée par, très souvent, par, on va dire par le discours dominant, que la colère soit considérée comme une émotion négative, comme une émotion basse. Or, il me semble qu'une émotion n'est ni négative ni positive, c'est un système d'alarme qui nous avertit que quelque chose se passe. Considérer qu'un système d'alarme est négatif, c'est d'une certaine façon considérer que le système d'alarme fonctionne, puisqu'un système d'alarme n'a pas vocation à nous endormir, mais au contraire à nous réveiller, parfois au milieu de la nuit, et à nous dire que quelque chose de grave est en train d'arriver. Et on a tendance, me semble-t-il, en tout cas, le discours dominant qui, très souvent, associe la colère à la violence, présente cette émotion comme si elle était intrinsèquement une émotion négative, alors qu'elle est juste le signal de quelque chose. Et à force de traiter la colère comme une cause, et non pas comme la conséquence d'autre chose, je trouve que très souvent, on passe un peu à côté du débat. Après, moi, dans mon livre et mon travail, j'ai travaillé essentiellement sur la question de la colère liée à la catastrophe écologique. Et là, on se trouve, me semble-t-il, dans une colère qui a des causes claires, certaines et scientifiques. C'est-à-dire que nous avons une clique d'industriels et de dominants qui sont en train de mettre la planète à feu et à sang. Et à partir de là, les gens qui ressentent de la colère, et j'aimerais qu'ils soient plus nombreux, ont de véritables raisons de le faire. Donc pour moi, la question des causes, dans le cadre, dans le travail que j'ai mené, ne fait aucun doute.
Oui, non, je voulais juste dire qu'il me semble qu'il faudrait faire une distinction entre ce qu'on pourrait appeler le caractère apte ou justifié d'une colère et son utilité, son efficacité. C'est pas la même chose. Par exemple, je peux tout à fait imaginer qu'une femme qui appartient à des minorités ait toutes les raisons du monde d'être en colère. La culture ambiante et dominante est telle que si elle se met en colère, elle va reproduire le stéréotype de son genre et de son groupe ethnique, par exemple. Est-ce que c'est, alors là je parle si vous voulez d'un point de vue normatif, est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que c'est utile à ce moment-là d'exprimer sa colère? C'est une question, on doit au moins poser la question. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire une distinction entre le caractère apte et justifié d'une colère et son caractère utile. Alors, je rajouterais, et là, bon, on sera peut-être pas d'accord, il me semble aussi que on peut avoir ce que j'appellerais une colère qui tourne à vide. Une colère qui non seulement tourne à vide, mais qui recèle une sorte de jouissance. Parce que quand on est en colère, l'expression de la colère, c'est pas seulement l'expression de la frustration, c'est aussi l'expression de la dominance et de la domination. Et donc on peut tomber amoureux du sentiment de domination que la colère nous donne, et du sentiment de pouvoir qu'on peut avoir sur quelqu'un. La colère terrorise les autres typiquement. Donc, je serais un tout petit peu plus hésitante, disons, dans mon diagnostic sur l'utilité de la colère.
Éric Lablanche, et je vous donne la parole dans un instant, Serge Tisseron, c'est vrai que quand on prend les luttes écologiques, on se demande si cette colère qui est bien réelle, hein, quand on voit Extinction Rebellion ou d'autres mouvements, Sainte-Soline, si ça porte ses fruits.
Alors moi, je trouve cette colère extrêmement faible. Je souhaiterais qu'il y en ait plus. Alors il ne s'agit pas, dans la colère que je défends, d'une colère immodérée et qui fait n'importe quoi et qui casse tout. Il s'agit d'une colère construite qui s'investit collectivement dans ce que Peter Sloterdijk, qu'appelle le philosophe allemand, appelle des banques de colère. Et donc, il y a cette nécessité, selon Sloterdijk, et je le suis là-dessus, cette nécessité de retrouver ces fameuses banques de colère qui sont en fait des... Il décrit ça comme des organismes de crédit qui permettent à chacun de mettre sa petite colère individuelle en dépôt, de l'épargner, c'est-à-dire de ne pas la faire surgir dans des émeutes ou des colères un peu vaines, pour lui donner un sens politique et un sens collectif.
Et vous faites le distinguo avec la violence, bien sûr.
Et je fais le distinguo avec la violence, car il est bien entendu que très souvent les petites colères individuelles qui ne trouvent pas leur exutoire finissent dans des colères qui tournent en rond. Mais lorsqu'elles sont organisées par des banquiers de la colère, qui sont a priori des tacticiens ou des stratèges, on peut véritablement obtenir collectivement, c'est ce qu'ont fait les grands partis politiques au 19e siècle, au 20e siècle, ce qu'ont fait le marxisme et le communisme, c'est-à-dire transformer des colères individuelles en quelque chose qui fonctionne politiquement et qui finit par améliorer la vie des ouvriers. Après, si vous me permettez, ça peut aller dans la violence aussi, toujours.
Serge Tisseron.
Oui, c'est un paradoxe, en effet, qui vient d'être pointé. La colère, d'un côté, est présentée comme une émotion négative, et d'autre part, c'est vrai, par certains côtés, elle est valorisée, puisqu'on est encouragé à exprimer nos émotions. Alors, comment ça se fait, ça? On a l'impression que ça tire à U et à Dia. Alors, je pense que ce paradoxe s'explique par le fait que la colère est généralement pensée de façon univoque et sur le plan quantitatif. C'est ce que j'appelle la logique du ferronnier, c'est-à-dire que un petit peu de colère, ça va, mais trop de colère, il faut la dompter, il faut la réprimer. Et du coup, ce raisonnement quantitatif, moi j'y oppose un raisonnement qualitatif. Il y a des origines diverses, colère, il y a des manifestations diverses des colères, et le jardinier, c'est quelqu'un qui regarde pousser les plantes, qui enlève les mauvaises herbes, de la même manière, il y a des mauvaises herbes de la colère. Lorsqu'on rentre dans une colère qui stigmatise certaines catégories de population comme impures, évidemment, ça commence à faire problème. On bascule d'une colère légitime dans une colère légitime. Et puis sinon, par rapport à Peter Sloterdijk, la banque de colère, je pense, ça a très bien marché au 19e, peut-être au début du 20e. Avec les réseaux sociaux, ça ne peut plus marcher. Parce que les gens ont la possibilité de chez eux, tranquillement, sans attendre de devoir déposer un bulletin de vote ou sans attendre le grand soir, ils ont la possibilité tous les jours d'inonder les réseaux sociaux de leur colère. Et du coup, si quelqu'un propose une banque, si un parti propose une banque de la colère, retenez-la, thésaurisez-la, confiez-la à nous, nous vous indiquerons comment l'utiliser. Si une banque propose quelque chose, si un parti propose quelque chose, personne n'a envie d'y aller. Les gens ont envie d'exprimer leur colère au fur et à mesure. Parce que la colère donne un sentiment très agréable quand même. Être en colère, c'est avoir l'impression de coïncider avec soi-même. Il n'y aurait pas tellement de gens en colère si ce n'était pas aussi agréable. C'est ça dont il faut se rendre compte. Il y a une jouissance de la colère qui peut aller jusqu'à la rage, qui peut aller jusqu'à la barbarie. Et si on ne prend pas ça en compte, on ne comprend pas pourquoi les réseaux sociaux... C'est alimenté par le modèle économique, bien sûr. Mais il n'y a pas que le modèle économique. Il y a aussi le fait que ça permet à beaucoup de gens de montrer leur colère au fur et à mesure qu'elle monte. Et elle monte, elle se dissipe, elle provoque des messages de haine qui sont viraux, elle retombe et les banques de colère ne fonctionnent plus.
Et vous prenez d'ailleurs dans ce livre, Serge Tisseron, la colère et le chagrin. J'aimerais d'ailleurs qu'après vous nous disiez un mot du chagrin, puisque ça va de pair. Vous tissez la métaphore avec, bien sûr, l'enfant. L'enfant qui, par l'exigence impérieuse d'être obéi, continue avec l'impuissance et le désespoir d'être rejeté et s'apaise avec l'acceptation de la réalité et l'entrée dans le chagrin.
Ben oui, on pense au développement de l'enfant comme des assiettes en faïence qui seraient empilées les unes sur les autres. Pas du tout, c'est plus des couches de guimauve ou plus des feuilles de papier. Si on froisse tout à la suite d'une frustration, d'un traumatisme, il y a des couches inférieures qui peuvent remonter et prendre toute la place. C'est ce qui explique que des gens qui vivent tranquillement avec leurs voisins, en quelques semaines, ils peuvent tout d'un coup les étriper, parce qu'il y a une couche de leur psychisme qui est tout d'un coup remontée et qui a envahi leur personnalité, et ils changent complètement de comportement en quelques jours.
Alors que tout est lié. Eva Illouz, d'un mot, et puis on va aller écouter un discours politique juste après.
Oui, non, moi je voulais revenir au sujet de la colère en politique. La colère en politique est très très utile. Donc, je ne veux pas la juger. Et je constate seulement qu'elle est très utile parce qu'elle permet d'organiser très bien les groupes. Elle permet aussi la diffusion très rapide des idées par un processus de contagion. La colère est très contagieuse, c'est un des sentiments les plus contagieux. Ensuite, elle donne une clarté morale, et en donnant une clarté morale, elle donne aussi la volonté d'agir. C'est une des grandes caractéristiques de la colère, c'est un des sentiments qui donne le plus la volonté d'agir. Et la colère définit aussi très bien eux et nous. Elle définit très bien ce qui est dans le groupe et ce qui est en dehors du groupe. Et c'est pour cette raison aussi qu'elle permet de mobiliser les gens très bien et de recruter, donc de rajouter des gens à son mouvement. Elle est très utile, mais politiquement, philosophiquement et normativement, est-ce qu'elle est désirable dans une démocratie? Je ne crois pas.
On va marcher jusqu'au Capitole, parce que vous ne reprendrez jamais votre pays par la faiblesse. Il faut montrer de la force.
This is fucking history!
On vient d'entendre Donald Trump lors de l'attaque du Capitole, c'était le 6 janvier 2021, et ça va exactement dans ce que vous venez de nous dire, Eva Illouz, et j'aimerais beaucoup avoir l'avis de Serge Tisseron et d'Éric Lablanche sur ce sujet. Est-ce que, parfois, la colère, elle est dangereuse en politique?
La réponse est oui.
Oui.
Comment répondre non?
Ça vous fait rire, Serge Tisseron?
Oui, ça me fait rire parce que
à partir du moment
où certains partis politiques sont dangereux, il est bien évident que la colère qu'ils exploitent devient dangereuse. Si vous voulez, c'est ça l'objet de mon livre, c'est cette métamorphose que certains partis que j'appelle populistes, hein, voilà, mais
démagogue, vous dites.
Démagogue, voilà, populiste, démagogue, enfin, la façon dont certains partis disent aux personnes qui ont des revendications légitimes liées au sentiment d'injustice, de non-reconnaissance, de jugement d'indignité à leur égard. Parti populiste disent, oui, vous avez raison, mais, et comme ils peuvent pas satisfaire les demandes des gens, ils les détournent, c'est-à-dire ils disent, oui, mais finalement, telle catégorie de la population, voilà, s'ils étaient pas là, votre situation s'améliorerait. Et c'est cette transformation d'une colère positif pour moi. D'ailleurs, au tout début de l'émission, quelqu'un l'a dit, hein, il y a des colères saines. Et c'est vrai.
C'était Ségolène Royal lors du débat de l'entre-deux-tours face à Nicolas Sarkozy.
Cette transformation de la colère saine, cette métamorphose que les partis populistes appliquent à la colère pour les transformer en colère de toute puissance, en colère excluante, en colère qui est censée se battre contre l'impureté. Parce que faut voir aussi les mots qu'on emploie aujourd'hui. Hein, moi, le jour où j'ai entendu un journaliste de CNews parler de cancre là pour les membres de l'ARCOM, comme j'ai cru que j'étais retombé en 1939. C'est quand même des choses qu'on croyait avoir disparu du paysage. Donc oui, la colère aujourd'hui, elle est très présente, mais elle est extrêmement exploitée, elle est montée en épingle et avec des conséquences qui peuvent être absolument dramatiques si on n'invite pas les gens à renouer avec ce qu'il y a de sain dans la colère. Oui, je suis victime d'injustice, mais d'autres sont victimes d'injustice et c'est ensemble qu'on peut y mettre fin.
Eva Illouz?
Alors, moi, je ne crois pas à cette idée de la colère saine. Je crois, par contre, qu'on peut sublimer ou détourner la colère. Je vais juste prendre, pour exemple, Martin Luther King, qui est, pour moi, un des plus grands leaders, si ce n'est le plus grand leader de l'histoire, et qui avait proposé cette expression que je trouve magnifique pour parler de la colère. Il avait parlé d'amour agressif. Pour lui, la colère, il fallait l'utiliser, mais il fallait aussi la détourner. Il fallait détourner cette colère en ce qu'il appelait un amour agressif. Et en ce sens-là, pour moi, il joue la fonction d'un vrai leader politique. C'est-à-dire, un vrai leader politique, c'est quelqu'un qui aide les citoyens à surmonter leurs passions les plus viles et les plus basses. Évidemment, nous sommes extrêmement loin de Trump qui, lui, non seulement joue de la colère, mais il faut voir le contenu de la colère. Ce n'est plus du tout un amour agressif. Il s'agit d'un sentiment qui est mêlé au dégoût qu'il forge à force de comparer les immigrants, par exemple, avec des groupes sociaux destitués. Ensuite, et la peur. La peur, le dégoût, la colère. Donc, on voit bien dans le populisme de Trump que ce n'est pas que la colère qui joue un rôle. C'est l'association de la colère avec d'autres sentiments qui sont eux aussi très forts.
Éric Lablanche.
Je trouve que on retombe, Eva Elius, dans cette idée que les émotions seraient par nature négatives. Mmh. La peur, la colère, le dégoût sont des émotions qui nous protègent. Mmh. Et ces émotions-là, comme toutes les émotions, sont à la base de la vie humaine, de la psyché humaine, de notre système cognitif et de notre façon d'intellectualiser le monde. À partir de là, on ne peut pas parler de la colère en ne parlant que systématiquement des moments où elle déborde ou les moments où elle est utilisée par des imbéciles. Mmh. Il faut essayer de voir à quel point ces émotions, dans une certaine mesure, sont d'abord, notamment pour la colère, une source formidable d'énergie. Si on regarde les six émotions basiques qui ont été déterminées par Paul Ekman dans les années 50, il y en a deux qui nous immobilisent. La surprise et la tristesse, il y en a deux qui nous font reculer, le dégoût et la peur, et il y en a deux qui nous font avancer, la joie et la colère. À partir de là, nos opposants, les gens qui sont, Trump, parce que c'est à lui que je pensais, quelqu'un comme Trump et ses sbires sont des gens qui ont compris que la colère est une énergie formidable et qui vont utiliser pour mener leur triste dessein. Pourquoi les gens qui sont du côté, par exemple, ceux qui ont pour but de laisser la planète dans l'état dans lequel ils l'ont trouvée, c'est-à-dire les écologistes, pourquoi eux n'utiliseraient pas toute cette ressource d'énergie qui est une colère classique, organisée. Alors, l'histoire, ce que vous avez dit, Serge Tisseron, sur les réseaux sociaux, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça pose un sacré problème. Pourquoi ne pas utiliser cette force pour avancer et pour dire, maintenant, ça suffit?
Parce que vous faites comme si les émotions au niveau individuel, c'était la même chose au niveau collectif et dans une arène publique. Ce n'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas faire copy-paste de l'un à l'autre. Ce qui peut effectivement être utile quand vous avez une relation avec votre voisin, c'est-à-dire lui montrer la colère parce que votre voisin ne vous respecte pas, par exemple, peut être en fait complètement inefficace quand il s'agit de gérer une collectivité ensemble. Et quand il s'agit de promouvoir, bon, disons pour aller vite, le bien commun. Alors, la démocratie, à mon avis, elle, d'un côté, ne peut pas se passer des émotions, contrairement à ce qu'on pense, d'un côté, mais de l'autre côté, il faut aussi reconnaître qu'il y a une sorte de tension, parce que la démocratie, c'est a besoin de la délibération. Elle a besoin, c'est aussi un projet épistémologique, elle a besoin de savoir qu'est-ce que c'est la vérité et comment on connaît la vérité. Elle a besoin de penser à la question de l'intérêt. Qu'est-ce que c'est l'intérêt du plus grand nombre? Qu'est-ce que c'est le bien-être du plus grand nombre? Tout ça, c'est opposé aux émotions. Les émotions sont des formes de pensée très rapides. Ce sont des formes de pensée qui n'hésitent pas. Ce sont des formes de pensée qui typiquement sont indifférentes à la vérité. Et puis, ce qu'il y a de plus troublant dans les émotions, notamment celle de la colère, c'est que ce sont des émotions qui sont indifférentes au bien-être de la personne. Si je veux me venger de quelqu'un, typiquement, je suis prête à me venger, je suis prête à me faire du mal pour me venger de la personne dont je veux me venger. Donc, tout ça fait qu'il y a une tension qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas ne pas rendre compte. Voilà.
Mais Éric, ça, c'est vous qui
Éric
le dites.
Éric Lablanche, oui, d'un mot, et puis Serge Tisseron.
Oui, ça, c'est vous qui le dites. Et puis, encore une fois, d'une certaine façon, alors, vous dites que les émotions individuelles ne peuvent pas être décalquées sur un plan collectif. Je comprends, le décalquer, c'est quelque chose de compliqué. Mais pour autant, on ne peut pas faire sans. si on ne peut pas faire sans, autant faire avec, sur le plan individuel comme sur le plan collectif. Donc, pourquoi ne pas chercher, ne pas essayer de les réutiliser? J'ai l'impression, parfois, Eva Ilius, que vous faisiez comme si, elles nous embêtent, donc on va faire comme si elles n'étaient pas là. Mais elles sont là. Et peut-être vaut-il mieux les prendre en compte et les utiliser intelligemment, plutôt que de faire comme si...
C'est ce que je dis, Martin Luther King, qui utilise la colère, mais qui la détourne en ce que j'ai appelé, ce que lui appelle, pardon, l'amour agressif. C'est précisément ce que je voulais dire.
Mais c'est ce qu'on retrouve dans toutes les religions, c'est peut-être aussi ce qu'on appelle la juste colère dans le christianisme. On la retrouve également dans la spiritualité hindoue, on la retrouve de partout. Cette juste colère, moi, c'est celle que je porte aussi. C'est la même. Il est bien évident que je ne suis pas en faveur d'une colère qui va tout casser.
Vous avez sans doute vu les uns et les autres cette tribune dans Le Monde de François Dubet. Le mépris est le carburant émotionnel des populismes. Vous alliez peut-être y venir, Serge Tisseron. Et ça m'intéresserait ensuite d'avoir votre avis, Éric Lablanche, sur ce sujet, puisqu'il dit également qu'aujourd'hui, c'est l'individualisation des colères par rapport aux grandes époques dont vous parliez, c'est-à-dire les ouvriers des années 50 qui disaient « nous » alors que les gilets jaunes disent « je ». Serge Tisseron.
Oui, je crois qu'il ne faut pas confondre la colère des foules et la colère des groupes. C'est vrai que lorsqu'une foule est en colère, inévitablement, ça a été montré pour la psychologie sociale depuis longtemps, inévitablement, ce qui se dessine, c'est le plus petit commun dénominateur des colères, c'est-à-dire les colères les plus archaïques, les plus enfouies, les plus excluantes, la colère de toute puissance, on va tout casser, ils vont voir un petit peu, voilà. Mais, en revanche, une colère peut être partagée par un groupe, elle peut être partagée par un groupe via certains réseaux sociaux, parce que il n'y a pas que des bulles dans lesquelles les gens s'enferment dans la haine sur les réseaux sociaux, elle peut être partagée par un groupe militant, elle peut être partagée par un groupe associatif. Et à ce moment-là, cette colère peut respecter un certain nombre de critères de reconnaissance, de dignité de chacun, et c'est ce que j'appelle la colère saine. Alors, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des colères individuelles et que des colères de foule. Il y a aussi des colères de groupe qui sont plus ou moins importantes, inspirées par différents types de valeurs.
Éric Lablanche ?
Je suis parfaitement d'accord.
Eva Ilouz ?
Quelle est la question?
Non, c'était pour rebondir sur ce que vient de dire Serge Tisseron, mais si on arrive à ce moment du débat où tout le monde est d'accord, je vous propose d'écouter un petit micro-trottoir pour relancer notre conversation.
La colère n'est pas positive et ça sert à rien.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je trouve que c'est mauvais pour la santé. Alors après, j'ai des petits ennuis, la crise de foie et tout ça. Alors quand je sens la colère monter, je dis, halte là, c'est pas bon. Alors c'est une certaine philosophie de la vie.
Ça fait combien de temps, putain, merde!
Vous avez des gens nerveux qui sont toujours surexcités, mais nous on est calme,
on est très calme.
Parce qu'on espère comme ça qu'on vivra peut-être un peu plus longtemps.
Ta gueule! Moi je vais m'arrêter de te la fin, tu vois, ça va pas durer longtemps.
Qu'est-ce qui vous met en colère? C'était une émission sur Antenne 2 le 7 janvier 1987, une archive qu'on a trouvée grâce à nos amis de l'INA. L'émission s'appelait « Moi, je ». Tiens donc, en 1987, qu'est-ce que ça nous dit, cette colère au volant, par rapport à ce qu'on vient de se dire, Serge Tisseron ?
Colère au volant.
Au volant, bien entendu, on entend...
D'accord, oui.
Comme en 1987, on le voit bien en ce moment dans les rues parisiennes, on monte très très vite quand on est dans les rues.
Oui. Vous savez, quelqu'un qui est dans sa voiture, il élargit son schéma corporel à son véhicule. Et si un motard en passant le frôle de trop près, c'est un petit peu comme si son corps était agressé. Et d'ailleurs, ça me permet de dire que la colère, il faut comprendre que c'est un peu l'équivalent de la peur, mais dans un autre domaine. C'est-à-dire la peur, c'est la crainte d'une agression physique. La colère, c'est la crainte d'une agression psychologique. Et dans les deux cas, effectivement, on mobilise toutes ses capacités. D'ailleurs, sur le plan de la physiologie cérébrale, les réactions en situation de peur et les réactions en situation de colère sont extrêmement proches. Donc on comprend à partir de là que la peur peut amener des réactions d'attaque-fuite inconsidérées, la colère aussi, mais à partir de là, c'est les valeurs que les gens se donnent qui vont leur permettre de réguler leur colère. Vous avez posé une autre question tout à l'heure par rapport au mépris, au texte du B. Il y a une raison pour laquelle on ne se rend pas compte à quel point la colère monte, c'est ce que des sociologues appellent l'invisibilité. Il y a de plus en plus de gens qui ont l'impression que ils ne sont pas visibles. Ils sont pas visibles dans les relations qu'ils ont avec les autres. Voilà, parce que la visibilité, c'est aussi attaché à la consommation. Si vous consommez moins, vous êtes moins visible. Et puis des tas de petits métiers pour lesquels les gens sont un peu considérés comme des robots qui accompliraient un certain nombre de tâches. Et je pense que ce sentiment d'invisibilité, ça nourrit l'impression d'être méprisé. Et en effet, ça fait monter des colères qui ensuite vont avoir tendance à chercher à se fédérer, avec le risque que plus une colère fédère un nombre important d'individus, et plus elle va se fédérer autour de ce qu'il y a de plus régressif dans la colère, c'est-à-dire encore une fois le sentiment de toute puissance, d'emprise et de chasse à l'impur.
Eva Illouz, et je rappelle que dans votre dernier livre, La civilisation des émotions, une série d'entretiens, la préface d'Yvan Jablonka rappelle que vous ajoutez aux trois capitaux de Bourdieu le capital émotionnel. Hein.
Oui, le capital émotionnel, c'est...
En plus du capital social, culturel, symbolique.
Exactement, oui. Et oui, c'est un concept sur lequel j'ai travaillé il y a à peu près 15 ans. Et il me semblait que les classes, disons, supérieures et les classes moyennes apprenaient aussi à gérer leur personnalité et leurs émotions de façon à bien avancer dans des grandes entreprises ou dans une organisation en général. Et donc, il m'a semblé qu'on pouvait parler de capital émotionnel, c'est-à-dire faire travailler ses émotions de façon utile. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin.
Il nous reste 5 minutes.
Alors, je voudrais rajouter quelque chose parce que il me semble que ce qui n'est pas dit suffisamment dans cette discussion, c'est que la colère peut enlaidir l'âme. C'est ce à quoi les Grecs étaient très sensibles, me semble-t-il. Le personnage de Médée est un personnage qui nous hante, parce que c'est quelqu'un qui est habité, hanté, complètement contrôlé et dominé par sa colère. On a le sentiment que c'est ce que la colère fait. Donc, il y a, si vous voulez, une sorte d'esthétique et de morale de l'âme qui doit travailler impérativement sa colère. Ça, c'est au niveau individuel. De l'autre côté, je pense qu'on est dans ce moment, on a constaté qu'il y avait beaucoup de groupes sociaux qui ne pouvaient pas exprimer de colère. Parce que la colère, comme beaucoup de sentiments, s'adosse à des hiérarchies sociales et souvent les reproduit et les exprime. C'est la raison pour laquelle les hommes peuvent beaucoup plus exprimer leur colère que les femmes ou que les enfants. Donc, nous sommes dans une époque où beaucoup de groupes réclament la capacité d'exprimer leur colère comme si ça leur donnait en fait un droit à l'égalité. Mais il ne faut pas confondre. Être en colère, ça ne veut pas dire être égal.
Éric Lablanche, est-ce que dans les luttes pour le climat écologique que vous étudiez dans vos deux derniers livres, vous sentez aussi ce que parfois peuvent ressentir aussi les femmes, une forme de mépris, de délégitimation des colères liées à ce combat que certains ne veulent pas voir émerger ?
Plus les gens appartiennent à une catégorie dominée, moins la colère est légitime. C'est-à-dire que la seule colère qui soit aujourd'hui légitime, c'est celle d'Emmanuel Macron. Quand il n'est pas content, il a engueulé ses ministres, blablabli, blablabla. Plus on descend dans l'échelle de la pyramide, et plus on se retrouve avec des gens, et il est bien évident que quand on est tout en bas de la pyramide, et qu'on est une femme pauvre, racisée, hein, on peut encore moins se mettre en colère, parce que la colère c'est moche, parce que la colère ça rend les femmes hystériques, ou elles sont hystériques, elles sont en colère, etc. Et puis surtout, il y a cette idée que ça enlaidit l'âme, mais ça enlaidit l'âme parce que, précisément, la colère ne se résout pas. Si il ne s'agit pas, évidemment, de rester en permanence dans une situation de colère, il s'agit, cette colère, de la résoudre et de la soigner, de faire en sorte qu'elle disparaisse parce qu'on a résolu les problèmes.
C'est le mot de la fin pour vous, Serge Tisseron, La colère et le chagrin, votre livre chez Albin Michel.
Oui, alors je voulais vous dire, je suis d'accord avec Eva Illouz, gestion des émotions, oui, dans certaines catégories sociales, je dirais surtout gestion du temps long. On garde sa colère à l'intérieur de soi, on apprend à la gérer dans le temps long. Et puis les femmes, faut pas oublier que les femmes, elles sont réputées impures dans beaucoup de civilisations à cause de leurs règles, et quand même, la colère d'emprise elle très vite, elle flirte avec l'impureté. Et alors, votre question.
Non, c'était pour chagrin. Faire réagir, vous m'aviez demandé, et puis surtout...
Alors, le chagrin, pour moi, c'est ce qui permet de passer, justement, de cette colère que j'ai évoquée plusieurs fois, d'emprise, de toute puissance, de maîtrise, qui flirte avec le rejet des catégories de population impures, hein, comme on l'avait avec Trump, qui a accusé les immigrés de pourrir le sang américain. Et c'est ce qui permet de passer de cette colère à, justement, une colère de reconnaissance mutuelle, hein, de dire dignité. Et comment il fonctionne, le chagrin ? Eh bien, il fonctionne en acceptant que les choses ont changé, qu'elles ne reviendront pas, que le temps passé ne reviendra pas. Et c'est vrai pour les individus, dans les deuils, mais c'est vrai aussi au niveau des nations, parce que beaucoup de nations sont amenées à faire le deuil d'une partie de leur territoire, d'une partie de leur puissance, et on est confronté à ça actuellement. Merci en France. On n'arrive pas à faire le deuil du passé impérial.
C'est une très belle notion. C'est fini, malheureusement. Eva Illouz, merci d'être venue ce soir dans Questions du soir. Vous êtes sociologue, je cite votre dernier ouvrage chez Gallimard, Explosive Modernité. Merci à vous Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie, et merci Éric Lablanche, essayiste, journaliste et conférencier. Votre dernier livre, Osons la colère. Un immense merci à toute l'équipe de Questions du soir qui m'a accompagnée toute cette semaine. La semaine prochaine, dès lundi, vous retrouverez Quentin Lafay.